Bonjour à tous. Merci bien. En tout cas, je m'appelle donc Samuel Rocha. Je suis accompagné de ma femme et de l'un de mes fils, Mathis et donc Céline. On est de l'église de Bourgoin-Jallieu, donc l'église Assemblée de Dieu. On tient à vous remercier, déjà donc l'ensemble de notre assemblée, tient à vous remercier de l'invitation que vous nous avez envoyée, formulée pour nous puissions avoir ce partage et cet échange entre nous. C'est vraiment quelque chose que l'on apprécie et qu'on souhaite conserver. On a eu l'occasion déjà pour certains de vous avoir vu l'année dernière pour des rencontres de camp famille avec des échanges pour les enfants. Ça a été vraiment des bons moments, des bons souvenirs et donc c'est avec plaisir de pouvoir revoir certains d'entre vous. Voilà. Donc merci bien en tout cas de nous avoir formulé cette invitation. Voilà. Bon, en quelques mots pour me présenter, ça va être rapide. Hein, on va pas. Je suis originaire des Hautes-Alpes, donc de Gap, l'autre côté des montagnes. Ma femme est lyonnaise, donc on a trouvé un bon compromis. On a essayé de trouver entre les deux. Donc on est parents de 4 enfants, donc 3 garçons et une petite fille au milieu, petite princesse. Voilà. Donc c'est vraiment une bénédiction, vraiment un bonheur d'être en famille. On est sur Bourgoin depuis quelques années, d'à peu près une dizaine d'années. Donc on travaille donc dans le secteur. Pour ma part, en tant que fonctionnaire dans les collectivités territoriales, au niveau dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, sur différentes collectivités, on a un peu tourné. Ma femme qui est formation comptable donc prend aussi le soin d'élever les enfants, qui n'est pas non plus une tâche facile et aisée, mais voilà, elle le fait très bien. Donc on est dans l'Isère depuis quelques années, et puis on a toujours eu à cœur bien évidemment de servir Dieu. Servir Dieu, il y a plusieurs façons, vous le savez, de pouvoir le servir, mais déjà avant que l'on se rencontre, on était déjà convertis. Dieu avait déjà parlé à notre cœur. Donc assez tôt, pour ma femme 11 ans et demi, moi 14 ans et demi. Ça s'est fait pour ma femme dans des situations, on va dire, plus simples que moi, puisque moi j'ai été touché en salle de réanimation après une opération cardiaque. Vous imaginez un peu le contexte. Mais voilà, je pense qu'il y avait ce moment-là pour que Dieu puisse me toucher et me faire comprendre certaines choses. Mais dans notre cœur, on a toujours eu à cœur de servir Dieu, de vouloir avancer et de progresser. Donc voilà, donc il y a des fois, il y a le temps de Dieu, il faut savoir l'écouter, patienter aussi. Et puis depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, on a ce fardeau qui vient de plus en plus à nous, et puis de s'engager de plus en plus profondément avec Dieu et de prendre davantage de temps. Donc en fin d'année dernière, on a été présenté comme un couple pour pouvoir s'investir dans le ministère pastoral. Donc on est en préparation, en formation, en déformation aussi. Des fois, on a besoin de certaines choses qui ont besoin de partir. Voilà, on est dans cette position actuellement. Et voilà, en quelques mots. Voilà pour l'introduction. Merci. Voilà, je voulais partager avec vous aujourd'hui un thème un peu particulier. Alors, quand vous allez voir, déjà le premier mot, c'est chuter. Chuter, mais par contre, se relever, résister, et surtout après, veiller. On va échanger sur plusieurs textes. Le premier, c'est 1 Corinthiens 10-12, excusez-moi. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. On lira la suite tout à l'heure. Et un autre texte, Proverbe 24-16. 7 fois le juste tombe et il se relève. Première question, qui aime tomber? Je pense que, hormis tomber amoureux de quelqu'un, je pense, ça peut déjà être une bonne chose. Mais par contre, c'est vrai qu'aimer tomber, je pense que c'est pas forcément agréable. Je pense que tout le monde connaît après sa première chute en vélo. Je pense qu'il y a eu ou en ski. C'est un apprentissage. Il y a quelque chose des fois qui nous déséquilibre. Effectivement, c'est le fait de chuter, de tomber, c'est une situation particulière. Peut-être un manque d'expérience. au niveau de ce que l'on traverse, une inattention, peut-être une fatigue, un terrain trop abrupt, trop verglacé, bien évidemment, c'est perte de vélo. Mais quand on regarde la définition dans le dictionnaire, ça va quand même plus loin. C'est chuter comme une perte d'équilibre, chuter comme une défaite. On ne va pas parler effectivement physique, vous avez bien compris, ça va être vraiment comme une défaite, comme une erreur, pire, une capitulation, une perte de force, une faute, un abandon. Donc c'est quelque chose qui peut aller très loin. Dans quel domaine on peut chuter ? On peut chuter dans ce qu'on vient de dire tout à l'heure, chuter physiquement, chuter d'un point de vue psychique, chuter d'un point de vue aussi émotionnel, d'un point de vue caractériel, excusez-moi, il y a deux fois émotionnel. Évidemment aussi, peut-être, chuter d'un point de vue spirituel. La question, effectivement, peut être posée d'une autre façon. Qu'est-ce qui nous fait chuter ? Dans quel domaine on chute dans notre vie quotidienne ? Quel est le domaine que l'on n'a peut-être pas forcément donné à Dieu entièrement, qui fait que le diable permet d'utiliser cette faiblesse que l'on a dans notre cœur et qui, après, malheureusement, entraîne, parce qu'elle doit être entraînée, un éloignement de Dieu et parfois une chute. La question, c'est tout simplement, comment est ma vie ? Qu'est-ce que ma vie dans la semaine ? Et qu'est-ce que ma vie le dimanche quand je rencontre mes frères et sœurs ? Est-ce qu'il y a j'ai le même comportement ? Est-ce que j'ai la même façon de vivre ? Ça peut être une question qu'il faut regarder. On a une multitude de situations qui nous permettent de chuter dans la semaine. Ça peut être au travail, à la maison, devant notre famille, lorsque l'on est tout seul, parce qu'on a aussi nos combats, on a notre vie, on a notre personnalité. Et tout simplement, ce que l'on peut dire, c'est que la chute est normale, parce qu'elle est dans notre nature humaine, et dans notre imperfection humaine. Et ça, c'est quelque chose d'important. On l'a vu tout à l'heure, c'est que cette fois, le juste tombe. On a quand même le terme de juste. On a quand même quelqu'un, quand on regarde dans la Bible, effectivement c'est dans les Proverbes, mais si on peut le mettre un parallèle par rapport à nous, le juste c'est celui qui est justifié. Pas quelqu'un qui est juste parce que je me suis, entre guillemets, je suis bien, je suis carré. C'est quelqu'un qui est justifié. Et justifié par quoi ? Justifié par la grâce de Dieu, qui est justifié par le sang de Dieu, par le sang de Jésus, pardon. Tout simplement, ça veut dire être gracié, c'est d'avoir été pardonné. Et à partir de là, on a quelque chose de plus, on a quelque chose qui nous permet de surmonter ces épreuves. On a cette grâce, on a un soutien de Dieu dans les situations qui nous sont difficiles. On a une possibilité de nous approcher, de prier simplement, de lui demander de nous soutenir dans le domaine qui nous pose souci à un moment particulier dans notre vie. Question, une fois à terre, qu'est-ce qu'on fait ? On se relève. Mais parfois, avant de se relever, il faut qu'on prenne conscience déjà qu'on est à terre et pourquoi. Pourquoi on est à terre ? Est-ce qu'on c'est une faute d'inattention ? Est-ce qu'on a glissé ? Est-ce que c'est une habitude ? Il y a peut-être... c'est vrai que là, il faut faire attention. Des fois, on a peut-être tendance à dire, c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer. J'ai chuté, mais je me relève et je continue. Prochaine fois, je ne me ferai pas voir. Ouh, celui-là, je le verrai de bien, bien loin et je ne me ferai pas voir. Sauf que bizarrement, on va se retrouver des fois dans la même situation. On se retrouve, je ne l'ai pas vu venir. Ça, c'est quelque chose, il faut vraiment que l'on soit attentif. Et le risque dans cette situation, c'est que nous arrivons toujours au même point, à la chute. Des fois, plus ou moins vite. Et le danger, dans cette partie-là, dans cette situation, c'est d'espérer peut-être faire les mêmes choses, mais d'espérer un résultat différent. Le problème, c'est que si quelque chose complémentaire en plus n'arrive pas, vous aurez toujours un même résultat. Vous tournez à droite, si vous tournez à droite la voiture ira toujours à droite. Si vous accélérez en tournant, la voiture ira toujours à droite. Si vous freinez, la voiture s'arrêtera, vous n'irez pas à droite. Il y a des fois un besoin d'un paramètre qui a besoin d'être modifié pour avoir un résultat différent. Et si on a notre vie avec nos défauts, nos qualités, nos manquements, nos faiblesses, peut-être nos liens qui nous lient, si on compte des fois s'en sortir tout seul, malheureusement, on n'a pas cette force, on n'a des fois pas cette visibilité ou ce recul qui fait que, malheureusement, on risque de se retrouver au même endroit et au même moment, dans la même situation. Et dans cette partie-là, c'est là où il faut que l'on soit vigilant. C'est que dans cette situation, le risque, c'est de s'épuiser à vouloir persévérer et faire la même chose. Faire la même chose pourquoi ? Parce qu'on veut progresser, parce qu'on veut s'améliorer, on veut plaire à Dieu, on veut quand même continuer, on veut progresser avec lui. Mais à un moment donné, d'un point de vue humain, on ne peut pas aller plus loin. Dans notre nature humaine, on a besoin de soutien. Et le problème, des fois, dans ces situations, je pense que vous l'avez dû le vivre, on a des fois ce sentiment de culpabilité. On a chuté, on se relève, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon sincèrement, il y a eu cette chute. Boum, deuxième fois, je reviens. Boum, troisième, des fois quatrième. Et à un moment donné, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on vient des fois devant Dieu et dire, mais Seigneur, à quoi bon te dire pardon parce que chaque fois je me retrouve dans la même situation quelques temps plus tard. Et là, Seigneur, je comprends pas. Et c'est là où il peut y avoir un danger. On peut avoir un état d'esprit qui peut être modifié, changé. On peut avoir vraiment cette action de l'ennemi de dire qu'on se sent indigne de sa grâce, de la grâce de Dieu. Quand on parlait tout à l'heure de justice, on a cette partie-là, cet état d'esprit. Des fois, nous change au niveau de notre attitude. On a peut-être moins de disponibilité ou moins de disposition à prier pour des situations particulières. Vous savez très bien le mur de prière, vous l'avez. Si vous avez des fois ces soucis, ou si ces soucis vous submergent, le mur de prière, vous allez passer devant, mais vous ne serez peut-être pas disposé à dire « je vais prendre un sujet pour prier parce que j'ai un combat intérieur et ce combat, je n'arrive pas à le mener tout seul ». Il y a aussi une perte de repères spirituels, ce que je disais, dans le sens où on n'a plus nos regards vers Christ, mais on se concentre sur ce que l'on a, sur notre situation, comment je peux m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire. C'est maintenant même là le danger. Pourquoi se concentrer sur ce que l'on a comme problème et avoir plutôt les yeux rivés vers Dieu? Il y a aussi nos chutes qui peuvent devenir, et ça c'est important, des défaites. Chuter, comme on voyait tout à l'heure, un juste qui chute, le juste se relève. Il ne se relève pas tout seul, on voit que c'est Dieu qui le relève. Mais il se relève quand même. À un moment donné, quand on commence à décider de dire « j'arrête tout ça, entre guillemets, je suis dans un état de défaite », c'est là où le danger arrive. C'est là où, d'un point de vue spirituel, on s'éloigne de Dieu et on n'arrive plus à cerner ce qui se passe autour de nous et dans quelle situation on est et même dans quel danger on se trouve. Et après aussi, je peux aller plus loin, ces défaites, cette crainte de l'échec, de la chute, nous empêche même d'avancer et de vivre pleinement les promesses de Dieu dans notre vie. Et là, c'est peut-être terrible, c'est de passer à côté. Je voulais juste vous apporter un texte, mais je vois le temps qui tourne et je voudrais juste vous en parler. C'est l'histoire de David. Vous connaissez David et vous connaissez Goliath. Quand on regarde, donc si vous voulez, 1 Samuel 17... On a cette situation donc de David et de Goliath. On a deux armées qui sont donc dans la vallée des Térébintes. On a l'armée des Philistins et on a l'armée d'Israël, de Juda, qui veulent s'opposer, qui veulent se combattre. Tous les matins ils viennent, ils s'assemblent, il y a des cris de guerre, ils se préparent, ils sont tous prêts à s'affronter. Mais il y en a un seul qui vient en face, Goliath, qui arrive, qui en impose avec sa stature, ses équipements. Il y a même quelqu'un qui porte le bouclier, un peu, imagine la scène difficilement. Il pose et il lance un défi. Et à côté de ça, une armée équipée, une armée guerrière en face, qui est sous le commandement de Saül, qui a été quand même loin, c'est le premier roi d'Israël, qui a été loin de Dieu. Et on a toute cette armée qui s'effondre complètement par rapport à chaque fois qu'il y a un appel. Il y a un appel de Goliath à ce niveau-là. Mais à un moment donné, c'est un état d'esprit de dire « mais on n'y arrivera jamais, on veut attaquer, mais il nous lance un défi, mais ce défi, il est immense, on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. » Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, des fois on a besoin d'aide, on a besoin de quelque chose de plus. David a apporté simplement, on voit dans le texte, dans 1 Samuel 17, il y a déjà une caractéristique, c'est que David se lève tôt, entre guillemets, il n'y a pas d'oisiveté dans lui. Il y a, entre guillemets, il est organisé et il fait les choses comme il faut. Il est simple berger. Par contre, quand on regarde le texte, quand une brebis se fait emporter par un ours ou par un lion, il va attaquer, il court après l'ours ou le lion et va récupérer la brebis. C'est quand même une mentalité qui est quand même assez exceptionnelle. Il a ses responsabilités et il les assume pleinement. Mais dans cette situation-là, on voit très bien, entre guillemets, David qui ne regarde pas cette situation. Lui, ce qu'il entend, c'est quelqu'un qui insulte l'armée de l'Éternel. Et c'est surtout aussi qu'il entend, alors, évidemment, mais la récompense. il y a aussi un but, il y a aussi une récompense. Celui qui battra Saül aura sa fille, aura de la reconnaissance, aura. Alors c'est pas, David n'est pas entre guillemets intéressé par toute cette partie-là, mais il y a quand même une situation à remettre en état. Et là, ce qui est important, quand on voit David, on peut se poser la question, on dit, mais pourquoi David, enfin, pourquoi ce petit berger est allé attaquer Goliath et l'a vaincu? Ben, tout simplement, quand on voit, effectivement, il avait l'onction de Dieu, il avait quand même une bénédiction de Dieu, mais il était fidèle dans les petites choses. Quand on prend les psaumes, vous vous rendez compte qu'une bonne partie de ces psaumes-là sont apportés par David. Et dans cette partie-là, il y a, vous les voyez, il y a son âme qui est abattue, mais toujours, mais j'espère en toi, mais mon âme soupire après toi, mais j'espère et j'attends de toi, mon âme crie à toi. Il y a quand même quelque chose. Dans la situation dans laquelle il se trouve, il y a toujours ce besoin de compter sur Dieu parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Et c'est ce que j'ai noté, c'est la louange ne veut pas dire que nos circonstances sont parfaites, parce que David, il y a des situations où c'était vraiment une catastrophe. Quand on voit avec le comportement qu'il y avait avec Bathsheba et Uri, ça n'a pas un exemple de moralité, la chute est flagrante à ce niveau-là. Mais entre guillemets, la louange rappelle aussi dans nos circonstances que Dieu est souverain. Et ça, c'est important. Parce que, à un moment donné, quand on parlait de David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas un cœur qui est juste, qui est droit, mais c'est un cœur qui est capable de retourner immédiatement vers Dieu et de compter sur lui pour combler le manquement qu'il a dans son cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est ce que je vous disais, voilà, on a besoin d'aide dans ce combat. Il y a deux choses. De l'aide, un soutien et un combat. Un combat, c'est quand même important, ça veut dire qu'il y a un adversaire en face, ça veut dire qu'il y a de l'opposition. Hier, il y avait des équipes de rugby, vous voyez très bien ce que c'est un combat. Quand il y a une mêlée, il y a un contact, et puis il suffit que vous vous fatiguez un peu, vous êtes mal préparé, vous perdez et vous avez un désavantage flagrant sur votre situation dans votre équipe. Dans le combat, on a la même chose, on a la même chose dans nos situations, dans nos épreuves. Ce qui est important aussi à voir dans cette situation-là, c'est que Dieu a un plan pour nous, pour chacun d'entre nous. Ce qui est important aussi, c'est que Dieu aussi nous voit pendant nos chutes, que Dieu aussi nous voit pendant nos manquements, pendant nos tentations, pendant les moments où on est complètement à terre. Et ce qui est important, des fois, c'est quand on se retrouve dans ces chutes, c'est de voir aussi dans quel état on réagit. Dieu utilise aussi ces chutes-là, ces manquements, mais pour voir aussi comment on est capable de réagir par rapport à lui. Est-ce qu'on est suffisamment fidèle? Est-ce qu'on l'aime suffisamment pour aller plus loin, pour lui demander pardon, pour lui demander de l'aide et pour être soutenu à ce moment-là? C'est quelque chose qui est important. C'est important aussi de voir que et de reconnaître que des fois on est faible et que dans cette faiblesse, à un moment donné, on est obligé de compter sur quelqu'un qui est fort. C'est ce que disait Paul dans 2 Corinthiens 12, 9. Quand Paul avait besoin d'une situation, là c'était plus physique, mais le Seigneur lui répondit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul parlera après, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai l'impression qu'il y a un non-sens, tu es faible, mais d'un coup tu es fort, il y a quelque chose. Oui, je suis faible. Entre guillemets, je suis fort parce que quelqu'un me soutient derrière, parce que je suis soutenu et épaulé. Et c'est là aussi ce qui est important, c'est de vraiment apprendre à compter sur Dieu dans ces situations-là. Vraiment aussi compter et faire confiance aussi à Dieu. Je passe dans une épreuve, je comprends pas pourquoi. Il y a des épreuves où quand je viens le dimanche, ben j'ai pas envie de louer, j'ai pas envie de remercier le Seigneur parce que mon cœur, il est trop touché, c'est trop intense en moi. Mais le Seigneur me demande quand même de ne pas regarder à ça, mais de regarder tout simplement à lui, à ses projets, ce qu'il a prévu pour nous. Ce qui est important aussi, c'est que dans ces épreuves, quand on les surmonte, on peut être un soutien auprès de nos frères et nos sœurs. Et ça aussi, c'est important. Quand on a su surmonter une situation difficile, ça peut être un deuil, ça peut être une épreuve dans la santé, une épreuve dans le travail. On peut être, Dieu nous a accompagnés, Dieu nous a soutenus, mais ce soutien, cette bénédiction que l'on a pu recevoir, on peut et on doit l'apporter au niveau de nos frères et de nos sœurs pour pouvoir ensemble, pour pour être fortifié, renouvelé, encouragé. Parce que ce qui est écrit dans le mur des prières, vous avez la fameuse colonne « prière exaucée ». Et ça, c'est vrai que ce serait l'objectif, c'est d'avoir cette colonne la plus remplie possible par rapport aux autres. Mais voilà, il y a besoin aussi de cette partie-là, de soutien et d'encouragement auprès des frères et des sœurs. Dans 1 Pierre 5,8, Pierre en parle donc de chrétiens, parle à des chrétiens, à des frères et sœurs. Il y a trois, quatre choses qui sont importantes. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est des choses qui sont rassurantes, plus ou moins. Elles sont imposées aux frères dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. On peut avoir des personnes autour de nous qui peuvent vivre la même situation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux verbes. Veiller, veiller, et résister, lui, avec une foi ferme. Le terme résister, c'est lorsque nous sommes dans notre faiblesse, ce que je vous disais tout à l'heure. Et comme vous le savez, l'adversaire vient toujours à ce moment-là. Je ne sais pas vous, mais quand vous êtes fatigué, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui va se préparer. Ça peut être des fois le caractère, parce que une situation qui arrive, et on a une vieille nature là qui ressurgit, qui peut réagir. On peut avoir une émotion, quelque chose qui nous éloigne de l'essentiel. C'est à ce moment-là, c'est ce terme-là, entre guillemets, de résister. On n'est plus à terre, on se relève, mais on est encore faible, on a encore besoin de stabilité, de soutien. C'est vraiment de résister, ça veut dire de s'armer, de s'équiper, parce que on est debout, on en est conscient, mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de choses en face, parce qu'on peut vite repartir. Et c'est là où il faut vraiment que l'on soit, qu'on soit vigilant, en termes de résister. Veillez, je vous en parlerai juste après. Comment résister? Ce qu'on a vu tout à l'heure, une foi ferme. La foi ferme, comment on peut la développer? Comment on peut la mettre en place, cette foi ferme? Il y a plusieurs manières. J'en ai noté quelques-unes. Ce qui est intéressant, c'est notre premier amour. Dans Deutéronome 6, 5, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Là, c'est quelque chose qui est important. Quand on tourne nos regards vers Dieu, quand on regarde à l'essentiel, on a des fois des situations qui nous paraissent différentes parce qu'on a un angle de vue différent. On a une situation, on a quelque chose qui est renouvelé en nous. Le fait de se remémorer tout ça, notre premier amour, comment on a réagi quand Dieu nous a vraiment touchés, quand on s'est repenti, on a eu cette joie d'être libéré, on a cette quelque chose de plus qui a été renouvelé, on est libéré. Il faut peut-être des fois s'en souvenir. D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Dieu m'a touché à un moment donné, il a été capable de le faire. Dieu est le même, pourquoi il ne le ferait pas différemment maintenant? Il y a besoin aussi que l'on se rende compte de tout ça. Il y a aussi on a l'exemple par exemple de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. On a une église qui est apparemment bien stable. Elle discerne les esprits, elle pratique la justice. Mais c'est une forme de légalisme de cœur qui est des fois partagé. Un cœur partagé, un cœur qui n'est pas forcément entier. Et ça, des fois, on peut s'en éloigner, on ne peut pas forcément comprendre ce que Dieu veut que nous fassions réellement. C'est bien précis dans Théronome, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, de tout ce que tu es, que ce soit vraiment quelque chose qui vient vraiment au plus profond de toi. Résister aussi, et ça vient par la suite bien évidemment, c'est notre communion avec Dieu. Alors notre communion, on peut faire un détail assez rapidement. On a la lecture de la Bible, même plus loin, la méditation, prendre ce temps de sonder les Écritures, de comprendre ce que Dieu veut nous dire. On a la prière, on a aussi le partage dans l'Église, on a la communion fraternelle, on a aussi le service dans l'Église, le service et être témoin là où nous sommes, dans notre travail, au quotidien, peut-être même à côté d'une personne dans un bus. Voilà, c'est un témoignage, un service. Et dans ces attitudes-là, plus cette communion se développe, vous le savez bien, à un moment donné, il y a certaines chutes, certaines situations, certains comportements, peut-être certaines addictions, elles s'éloignent parce qu'entre guillemets, nos regards sont vraiment orientés vers Dieu, vraiment orientés vers l'essentiel, vers le service, vers ce qui est vraiment nécessaires pour nous, et les chutes seront des fois beaucoup plus ciblées. On voit quand Jésus, par exemple, dans le désert, a été tenté, il y a eu la tentation d'un point de vue physique, puis d'un point de vue moral, puis d'un point de vue mental, psychique, et d'un point de vue spirituel. Il y a des tentations qui peuvent être évidentes au début, puis d'un coup, des attaques qui sont beaucoup plus subtiles, qui peuvent vraiment toucher notre âme. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Mais ce qui est merveilleux dans notre communion avec Dieu, c'est que Dieu renouvelle notre intelligence. Dieu renouvelle aussi nos pensées. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que l'on mette de côté. Si on reste dans nos soucis, je ne sais pas vous, mais des fois ça tourne vite, et on se gratte dans un pot et on n'arrive pas à en sortir. Mais si on prend du recul et on compte vraiment sur Dieu, nos pensées sont renouvelées, les choses s'apaisent, les choses se mettent en place à leur place et à leur bonne place et ne prennent pas l'amplitude qu'elles devraient avoir. Ça aussi c'est important. Résister aussi en s'équipant de l'armure du chrétien. Ça, c'était, on le connaît, on en a déjà bien parlé. Dans Éphésiens 6, 10 à 20, je vous laisse le lire. Entre guillemets, le mot d'ordre au début, c'est fortifiez-vous. C'est-à-dire affermissez-vous, soyez droit, tenez-vous stable. Et c'est vraiment cette partie-là que l'on a vraiment besoin. On a toutes les armes du chrétien. On a l'épée, la parole, on a le bouclier, on a l'armure, on a la cuirasse, on a la ceinture, on a les chaussures, on a le casque du salut, on a toute cette partie-là. Et c'est ça qui est important. C'est ce terme de veiller. On est équipé. Veiller, en fait, c'est quand tout va bien. Puis des fois, ça va trop bien. Je ne sais pas si vous le sentez, ça. Spirituellement, ça va trop bien. Il y a quelque chose qui... On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Veiller, entre guillemets, c'est on est bien, on est stable, mais c'est un peu le calme avant la tempête. C'est vraiment être vigilant de savoir si les choses risquent d'arriver ou si, entre guillemets, spirituellement, on est bien. Spirituellement, que tout soit en ordre dans notre vie pour vraiment ne pas se retrouver avec des situations qui sont beaucoup plus compliquées à gérer parce qu'au début, on a peut-être négligé certaines choses. J'ai bientôt fini. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi dans l'action, dans le service. En Hébreux 13, 18, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience. Ça aussi, c'est important. Une bonne conscience, on va en parler, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Et là, j'ai noté en toute occasion. Être convaincu d'avoir une bonne conscience, ça va quand même, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'avoir une bonne conscience, d'être tranquille. Quand on va vers Dieu, on parlait d'une communion. La communion avec Dieu, ce n'est pas avoir cette communion comme un patient qui a avec un docteur. De venir, j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis pas bien, j'ai mal au cou, etc. Je vous donne des ordonnances, Dieu me bénit, merci, et je repars. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Une communion, c'est donner, évidemment, mais demander et recevoir, mais aussi donner. Donner de façon spontanée. Donner du temps que l'on a peut-être pour le donner à Dieu dans des situations, dans des besoins qu'à l'église ou les gens qui ont besoin autour. Les gens ont besoin, excusez-moi. Le plus important aussi, c'est de vivre victorieux dans tous les domaines de notre vie. Et c'est vraiment d'être convaincu d'avoir une bonne conscience, c'est ne pas forcément avoir ce monologue avec Dieu, tout simplement avoir une communion, un partage, un échange, et non pas un échange avec tout le temps de venir peut-être à Dieu parce que je vais pas bien, parce que j'ai des soucis, etc. Il y a besoin, effectivement. C'est le docteur et c'est le bon berger. Mais à un moment donné aussi, d'être victorieux avec lui, d'être établi en lui. C'est un Dieu quand même qui libère, qui transforme, qui nous donne de l'espoir. Et c'est un Dieu effectivement qui pardonne et qui relève. Et ça, c'est important. Il faut qu'on puisse le retenir. Pour terminer, dans un verset, psaume 37, 23, il est écrit que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. C'est quand même beau, hein. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Il y a quand même la chute, on reparle du juste. Il tombe, mais il n'est pas terrassé, ce n'est pas une défaite. Car l'Éternel lui prend la main pour le soutenir et pour le relever. Quand on a vu tout à l'heure, au début, quand on parlait d'un Corinthiens 10-2, je vous ai pas tout lu. Je vais tout vous lire 10-12 et le 12 et le 13. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. qu'on a vu tout à l'heure. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez résister. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. On sait qu'on a des tentations, la Bible nous en parle, elles sont pour toutes, pour tout le monde, selon notre passé, notre vie, notre caractère. Mais Dieu est le même. Il précise que la chute, qu'elle soit n'importe quel domaine, tout simplement, il sera là pour prendre la personne, la soutenir, la consoler, la fortifier, la relever et aller. Continue et avance. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Pour terminer, et c'est fini, je l'ai déjà dit deux fois, je reviendrai sur David. Vous lirez ce soir, enfin vous lirez quand vous aurez le temps, mais David, en fait, quand vous voyez qu'il a attaqué Goliath, il a préparé des petits cailloux. Vous savez, il a sa fronde, mais il a choisi ses cailloux. Les cailloux n'étaient pas anguleux, ils étaient polis, ils avaient le sens de l'aérodynamisme, il devait bien connaître toute cette partie-là. Mais quand on lit dans la Bible, il en a pris plusieurs. Il en a pris cinq, c'est ça. Il en a pris cinq. Mais quand il l'a utilisé, quand on lit, on ne sait pas exactement, mais on voit quand le combat s'est engagé, il en a mis un seul, il l'a bien visé et il l'a mis là où il fallait. Et ça s'est trombé, ça s'était fini. Mais il avait quand même préparé quatre autres cailloux au cas où. Et ça, c'est important. Quand on a ses armes, quand on a les armes de Dieu, il faut quand même être équipé et savoir ce que l'on a, ce que Dieu nous donne à disposition. Et parfois, quand on a un combat, une épreuve, la prière peut suffire. Un caillou. Mais des fois, ça peut être plus compliqué. On a besoin de la prière, mais vraiment peut-être replonger notre pensée dans la Bible pour essayer vraiment de comprendre cette situation et qu'est-ce que Dieu veut vraiment qu'on ressorte de ce que l'on a. On peut avoir notre caillou qui peut être vraiment une prière collective. Seigneur, j'ai besoin de toi et j'ai besoin aussi que les frères et sœurs m'entourent et me soutiennent dans cette épreuve parce que je ne suis pas capable, parce que c'est difficile. Seigneur, tu es là, tu es suffisant, mais je n'ai peut-être pas parlé, mais que Dieu ne bénit pas les paresseux. Ça, il faut vraiment qu'on soit convaincu. On a notre part à faire. Et d'avoir le soutien des frères et sœurs dans une situation particulière, c'est même sage. C'est de demander que ce combat soit aussi celui de l'Église, mais pour un soutien, pour une victoire et pour un encouragement. Il peut y avoir aussi des pierres, ça peut être le jeûne, c'est quelque chose aussi, un temps vraiment mis à part, retiré des problématiques quotidiennes ou autres, mais vraiment prendre ce temps à part, vraiment rechercher la présence de Dieu, vraiment sa parole, vraiment sa direction pour une situation particulière. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à David. Effectivement, il y avait ces cinq pierres, il a su en utiliser qu'une seule, mais entre guillemets, il y avait toute une préparation préalable. On voit Goliath, mais on ne l'a peut-être pas vu avec courir après les lions et à courir après les loups et les ours, et puis de dire, ben, tant pis, une brebis de moins, tant pis, c'est pas grave. Non, il est allé les chercher. Et je pense que c'est important aussi, de garder cette partie-là, d'être zélé, de pouvoir continuer, de pouvoir persévérer, malgré les situations, malgré nos manquements. C'est dans notre nature, on peut chuter, c'est dans notre nature humaine. Mais entre guillemets, on a été justifié. Et ça, c'est important. On a été justifié, on a été placé comme gracié. Et je pense que ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est tout simplement ça, enfin le terme, quand on parle de disciple de Jésus ou de discipline, c'est d'apprendre à se soumettre et à se fixer dans un cadre que Dieu nous demande tout simplement de prendre. Voilà. Voilà, sachons utiliser toutes les armes que Dieu nous donne dans notre quotidien, pour notre vie, et puis qu'il nous fortifie, qu'il puisse renouveler aussi nos pensées, qu'on puisse remporter des victoires, qu'on ne se désespère pas de certaines situations, qu'on ne comprend pas Dieu, qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas, et on peut même se poser la question de dire, mais pourquoi on en est là, quoi. Non, avoir les regards fixés vers Dieu, tout simplement. Prendre le temps de le louer. Une louange, c'est pas un dû. Enfin, c'est pas quelque chose. C'est un dû à Dieu. C'est pas par rapport à autre chose. On doit lui donner parce que c'est dans notre nature, c'est de lui apporter reconnaissance pour qui il est tout simplement, malgré les circonstances. Mais Dieu est fidèle et renouvelle nos pensées. Il nous fortifie, il nous encourage. Voilà. On prend un petit moment, juste, je présente... On prend un moment pour prier. Seigneur Jésus, on te remercie parce que tu es rempli d'amour et de grâce, Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés, Seigneur Jésus. C'est vrai que tu es monté sur ce bois, sur cette croix, et tu es mort pour nous. Pas parce que nous le méritions, mais vraiment par amour pour nous. Nous voulons te remercier et vraiment être reconnaissants, Seigneur Jésus, pour cette action, pour le fait d'être sauvé, mais aussi pour avoir le fait de pouvoir se rapprocher du Père et pouvoir simplement le prier, et vraiment d'espérer, d'attendre un retour de sa part, une bénédiction, un soutien, un encouragement. Ta parole est la vérité. Ce qui est écrit, Seigneur Jésus, nous pouvons simplement le croire, l'espérer et le mettre en pratique dans nos vies, notre Dieu. Alors nous voulons te remercier. Te remercier, c'est vrai, pour toutes ces victoires que nous avons remportées, Seigneur Jésus. Mais te remercier aussi pour celles que nous avons actuellement, Seigneur Jésus, dans chacune de nos vies. Parce que c'est vrai que nous voulons regarder, fixer nos regards vers toi, Seigneur. C'est vrai que les circonstances sont peut-être celles qu'elles sont, Seigneur Jésus, mais toi, tu es fidèle, tu es plus fort que toutes ces situations-là. Tu sais exactement par où on passe et que tu trouveras et que tu as déjà préparé le moyen que nous puissions en sortir. Alors nous voulons être reconnaissants, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous accordes. Amen.